Le journal vous est présenté par Guillaume Farieux.
Bonsoir. On ne peut pas être dans une démocratie de l'émeute. Les mots fermes d'Emmanuel Macron cet après-midi sur les manifestations des Gilets jaunes. Selon le président, tous ceux qui manifestent sont désormais complices de la violence. Décathlon, rétropédale finalement, non, son hijab de course ne sera pas commercialisé. La marque française renonce face au tollé sur les réseaux sociaux et au sein de la classe politique. Peut-être une nouvelle poignée de main demain entre Donald Trump et Kim Jong-un. Les deux dirigeants vont se rencontrer à Hanoï, au Vietnam. Nouveau sommet, 8 mois après une première rencontre. Nous en parlons avec Antoine de Bondaz, chercheur spécialiste des deux Corées, à l'invité de ce journal. Au programme également, le Brexit qui pourrait bien être reporté. Theresa May laisse le choix à son Parlement. Et puis, le réquisitoire d'un colonel français contre la coalition internationale au Moyen-Orient face à Daesh. Selon lui, la stratégie des pays occidentaux est loin d'être la meilleure. La charge d'Emmanuel Macron contre les Gilets jaunes. Le chef de l'État participait cet après-midi à un débat avec les élus de la région Grand Est à l'Élysée et il a considérablement durci le ton face au mouvement. Emmanuel Macron.
C'est un miracle qu'après autant de samedis, avec cette violence à certains moments et dans certains endroits, il n'y ait eu aucun mort à déplorer de la part justement des forces de l'ordre. Et il faut maintenant dire que lorsque on va le samedi dans des manifestations violentes, on est complice du pire. C'est tout. Mais soyez partout où vous êtes aussi clair que cela. Et moi, je déplore qu'il n'y ait pas toujours eu cette clarté. Je crois qu'aujourd'hui, la place doit être au débat, la place est à la réponse démocratique. Partout où elle est installée, elle sera ensuite dans les urnes pour les échéances à venir, pour celles et ceux qui veulent s'organiser. Mais on ne peut pas être dans une démocratie de l'émeute.
Un discours surréaliste pour Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Selon lui, Emmanuel Macron ne va faire qu'envenimer la situation.
Là, c'est carrément une intimidation et une remise en question du droit fondamental de manifester. Laisser entendre à des gens, parce que c'est à eux qu'ils parlent, que s'ils manifestent et qu'il y a des événements violents aux manifestations, ils sont responsables du pire, c'est quand même une menace qui n'est pas entendable en démocratie. Ce que fait le chef de l'État, c'est qu'il ne cesse en réalité de jouer l'escalade par les mots. Et dans les actes, c'est un très mauvais message envoyé aux forces de l'ordre. Parce qu'en réalité, ça légitime tout. Ça légitime à certains moments des bavures. Ça légitime le fait qu'on utilise effectivement des armes comme les LBD, les grenades de désencerclement. Ça légitime des milliers d'arrestations préventives. Et donc, en réalité, ça légitime le fait qu'on n'est plus aujourd'hui tout à fait dans une démocratie dans ce pays. Voilà la réalité. Le chef de l'État joue la tension. Moi, je le crois. Il joue la politique du pire. Et c'est ça qui est inquiétant.
Au cours de ce débat à l'Élysée, Emmanuel Macron a aussi évoqué le cas des djihadistes français incarcérés à l'étranger. Le président de la République l'assure, aucun rapatriement n'est envisagé. Ils seront jugés dans le pays où ils sont accusés. Alexandre Benalla et Vincent Crase sont libres. La cour d'appel de Paris annule l'incarcération de l'ancien collaborateur de l'Élysée et de l'ex-salarié de La République En Marche. Ils étaient tous les deux emprisonnés depuis une semaine pour le non-respect de leur contrôle judiciaire. Les deux hommes sont toujours poursuivis, entre autres pour avoir malmené des manifestants le 1er mai dernier à Paris. Plus de 500 personnes rassemblées ce soir au pied de la cathédrale de Strasbourg pour dire non à l'antisémitisme. Manifestation une semaine après la profanation du cimetière juif de Kouatzenheim dans le Bas-Rhin. Le hijab de course de Décathlon ne sera finalement pas commercialisé. La marque française suspend le projet face à la polémique sur les réseaux sociaux et dans la sphère politique. Il faut dire que ce voile adapté à la pratique du sport a suscité beaucoup de critiques, Steven Goyer.
C'est allé très très vite, comme de coutume sur les réseaux sociaux. Un tweet d'une personnalité avec beaucoup de followers et c'est Twitter qui s'enflamme. Cette fois, c'est Lydia Girous, la porte-parole du parti Les Républicains, qui suscite dimanche la controverse, accusant la marque Décathlon de se soumettre à l'islamisme, photo du hijab running à l'appui. Suivent les justifications, le fait de rendre accessible le sport aux femmes voilées, le fait d'avoir produit ce tissu au Maroc pour des besoins précis, le fait même de reconnaître qu'il y ait un marché en France, rien n'y fait, tout s'envenime à un point où les insultes s'échangent à tour de tweet entre internautes, mais aussi contre Décathlon, un malheureux classique sur Twitter avec cette fois une férocité toute particulière qu'il ne serait pas forcément opportun de retranscrire. Mais ce sont surtout les menaces qui ont pesé dans la décision de la marque et même dans les magasins des personnels insultés et menacés physiquement depuis le déclenchement de la polémique, ce qui a provoqué la diffusion du communiqué où l'on peut lire « Nous suspendons notre projet de commercialisation de ce produit en France par souci de garantir la sécurité de nos coéquipiers ». Décision prise justement après les remontées de terrain qui pouvaient être faites. Annonce qui a aussitôt déclenché quelques critiques sur Twitter, celle-là reprochant désormais à la marque d'avoir cédé à la pression.
Les explications de Steven Goyer pour France Culture. Ils vont se rencontrer pour la deuxième fois en moins d'un an. Donald Trump et Kim Jong-un sont à Hanoï, la capitale vietnamienne. Elle abrite à partir de demain et pendant deux jours un sommet entre le président américain et le leader nord-coréen. Pour en parler avec nous ce soir, Antoine Bondaz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste des deux Corées. Alors, première question, quels sont les principaux enjeux de ce sommet ?
Alors, l'enjeu, il est d'institutionnaliser le dialogue et de concrétiser les engagements qui ont été pris il y a déjà plusieurs mois, en juin dernier, à Singapour. La déclaration de Singapour avait quatre points précis. Le premier, c'était les nouvelles relations politiques. Le deuxième, l'établissement d'un régime de paix. La troisième, la dénucléarisation complète de la péninsule. Et puis le quatrième, le rapatriement des soldats décédés pendant la guerre de Corée. Malheureusement, on a surtout avancé sur le quatrième point, et seulement le quatrième point.
Oui, sur la question de la dénucléarisation, on est plus resté dans l'intention. Alors, quelles actions concrètes pourraient être discutées ? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place, là ?
Alors, par rapport justement aux différents points qui étaient évoqués à Singapour, on pourrait attendre l'ouverture de bureaux de liaison, c'est-à-dire non pas d'ambassade, mais de bureaux de liaison qui permettraient d'institutionnaliser le dialogue et d'avoir une présence américaine en permanence à Pyongyang, notamment pour préparer les négociations futures, puisqu'on n'est qu'au début des négociations. Le deuxième point, ça pourrait être la déclaration de la fin de la guerre, non pas la signature d'un traité, mais une déclaration d'intention sur le plan politique. Et puis troisième point, extrêmement important, sur la question de la dénucléarisation, on peut espérer, il faut l'espérer en tout cas, que la Corée du Nord accepte le retour des inspecteurs internationaux, puisqu'il faut bien comprendre que pour l'instant, on a eu un gel des essais, mais en aucun cas un gel du programme nucléaire et balistique nord-coréen.
Ça veut dire quoi, une présence américaine qui vérifie l'effectivité de cette dénucléarisation sur le sol nord-coréen ?
Ça veut dire aller plus loin que simplement un gel des essais et commencer à discuter à un gel des programmes, c'est-à-dire que la Corée du Nord ne serait plus en train d'enrichir de la matière fissile, ne serait plus en train d'assembler des bombes ou de fabriquer des vecteurs, c'est-à-dire des missiles. Pour cela, il faudrait qu'il y ait une présence étrangère sur le territoire nord-coréen, les fameux inspecteurs internationaux, qu'ils soient américains ou non, sous couvert d'une approche multilatérale ou d'une approche bilatérale uniquement américaine.
Et bien sûr, la Corée du Nord, elle va demander des contreparties. Qu'est-ce qu'elle va demander ?
Alors, la Corée du Nord demande depuis très longtemps la levée des sanctions économiques sur le régime. Or, ces sanctions sont imposées en fonction de la question nucléaire et balistique. Et sans avancée concrète en termes de dénucléarisation, il y a très peu de chances pour les Nord-Coréens que ces sanctions soient levées. Par contre, ce que la Corée du Nord peut espérer, c'est poursuivre, entre guillemets, la normalisation progressive des relations avec les États-Unis et l'amélioration plus générale des relations dans la péninsule, c'est-à-dire moins de pression, notamment militaire, sur le régime.
Vous avez plusieurs fois utilisé le mot on peut espérer. Est-ce que quelque chose peut vraiment ressortir de ce sommet entre ces deux dirigeants ?
Alors, il le faut, et il faut, je pense, garder un optimisme, mais un optimisme extrêmement prudent. Ce sommet peut déboucher sur quelque chose pour une raison simple, c'est que le format des négociations est très différent des formats des années 90 et des années 2000. Là, la discussion se fait au plus haut niveau à travers une diplomatie de sommet. Encore une fois, il faut être extrêmement prudent, mais il ne faut pas être entièrement pessimiste.
Oui, surtout qu'on a deux personnalités qui sont assez imprévisibles. Il y a forcément des risques quand deux dirigeants comme ça se rencontrent, Donald Trump et Kim Jong-un.
Il y a effectivement des risques, mais chaque dirigeant a ses intérêts propres. Pour parler plus facilement du président américain, il cherche avant tout à présenter le sommet de Hanoï comme une victoire politique, un succès diplomatique. Il oppose à tort les tensions qui auraient été héritées du président Obama à une période plus stable qu'il aurait rendu possible. Encore une fois, le président Trump prépare évidemment l'élection de 2020 Et le résultat de l'élection de 2020 dépendra en partie de ces résultats sur le plan diplomatique.
Et une dernière question, rapidement, vous l'avez dit, il y a aussi la question de la négociation pour mettre fin formellement à la guerre de Corée, parce qu'en 1953, il y a seulement un armistice qui avait été signé. Qu'est-ce que ça changerait ?
Alors, ça permettrait premièrement de réduire les tensions militaires dans la péninsule coréenne, mais ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que la paix ne se décrète pas, la paix se construit, et une déclaration de paix ne serait pas suffisante pour amener la paix. Et encore une fois, comme le disait très bien le président sud-coréen il y a plusieurs mois, la dénucléarisation de la péninsule est la condition absolue à la paix dans la péninsule.
Merci Antoine Bondaz d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste des deux Corées. Manifestation de milliers d'étudiants aujourd'hui en Algérie. Ils protestent contre le président Abdelaziz Bouteflika qui va briguer un cinquième mandat aux élections d'avril. Pas de quoi faire reculer le camp du chef de l'État. La candidature du président sera officiellement déposée le 3 mars, annonce cet après-midi du directeur de campagne d'Abdelaziz Bouteflika. Et si le Brexit était reporté, la première ministre britannique Theresa May va laisser le Parlement choisir. C'est ce qu'elle a annoncé cet après-midi devant la Chambre des communes. Elle pose tout de même quelques conditions. D'abord, les députés devront se prononcer sur le plan de sortie négocié avec les Européens. Ce sera dans 15 jours. En cas de refus, ils auront deux possibilités, sortir sans accord ou reporter le départ de l'Union Européenne. À Londres, Antoine Gignot.
Ce report du Brexit, la semaine dernière encore, Theresa May ne voulait pas en entendre parler. Mais face à la pression de plusieurs ministres qui menacent de démissionner, face à l'opposition qui réclame désormais un deuxième référendum, la première ministre n'a pas le choix. Elle promet aux députés qu'ils pourront choisir dans 15 jours entre une sortie sans accord de l'Union européenne ou un report du Brexit, même si la priorité, dit-elle, reste de se séparer du bloc européen à la fin du mois de mars.
Je sais que plusieurs députés sont légitimement inquiets de voir l'horloge qui tourne. Mais je vais être très clair. Je ne veux pas une extension de l'article 50. Votre priorité absolue doit être de travailler à un accord et quitter l'Union européenne le 29 mars. Une extension au-delà de la fin du mois de juin obligerait le Royaume-Uni à participer aux élections européennes. Quel message ce serait pour les 17 millions de personnes qui ont voté pour quitter l'Union européenne il y a bientôt 3 ans?
Pas question donc, quoi qu'il arrive, d'imaginer un report du Brexit de plusieurs mois. Ce sera au mieux quelques semaines. Mais si la déclaration politique a temporairement apaisé les députés, elle ne rassure personne dans les milieux économiques. En acceptant de prolonger les discussions, la Première ministre prolonge aussi l'incertitude.
Et l'Union européenne s'est montrée plutôt favorable à ce possible report. C'est une solution rationnelle pour Donald Tusk, le président du Conseil européen. Mouhamadou Bouhari assuré d'être réélu au Nigeria selon les résultats encore partiels de l'élection de samedi. Le président sortant distance son principal opposant Atiku Abubakar. Cet homme d'affaires, ancien vice-président, n'est plus en mesure de rattraper son retard. Quand un colonel français critique ouvertement la stratégie militaire de la coalition internationale au Moyen-Orient, François Régis Le Grillet, ancien dirigeant d'une force opérationnelle à la frontière irako-syrienne, a écrit il y a peu un article dans la revue Défense Nationale, un texte aussitôt retiré et republié aujourd'hui dans le journal Le Monde. Selon ce militaire, la stratégie adoptée contre Daesh, notamment par la France, est loin, très loin d'être idéale. Nathalie Hernandez.
Le colonel Le Grillet s'exprime sans détour. Dans son analyse de 7 pages, l'officier supérieur pointe du doigt la stratégie employée par la coalition qui s'est contentée de frappes aériennes et de missions par les forces spéciales, d'où un enlisement. Car en confiant au FDS, les forces démocratiques syriennes, l'engagement au sol, la maîtrise du temps a été perdue par la coalition, souligne François Régis Le Grillet. De plus, avec le futur retrait des Américains, les bombardements ont été intensifiés pour en finir au plus vite. Mais à quel prix, déplore le colonel Le Grillet ? Plusieurs mois de guerre, des destructions massives et un coût exorbitant. Sans compter que l'ennemi, lui, continue la lutte en mode insurrectionnel. Tout cela n'a pas vraiment plu donc dans les hautes sphères, mais le colonel Le Grillet a trouvé un défenseur parmi ses pairs, l'ex-colonel et historien Michel Goya, sur son blog La Voix de l'Épée. Il estime, lui, qu'il s'agit d'une analyse argumentée et que du débat peut au contraire naître de nouvelles idées et une évolution.
Et rappelons qu'aujourd'hui en Syrie, les djihadistes ne contrôlent plus qu'un périmètre d'à peine un demi-kilomètre carré dans le village de Baghouz. Ils sont encerclés par les forces démocratiques syriennes. Le temps pour demain avec encore du soleil partout en France, un beau ciel bleu, sauf au-dessus de certaines villes où il est un peu gris par endroits, la faute à la pollution atmosphérique, en région parisienne notamment, où la circulation différenciée sera mise en place demain, pareil dans la métropole lilloise. Une première, côté température, c'est toujours largement au-dessus des normales, jusqu'à 26 degrés en Aquitaine. Il est 22h15, vous écoutez France Culture, vous avez bien raison, c'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Chloé Leblond.